بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فلا زال الحديث مع الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وها نحن وصلنا إلى الحديث العشرين. Donc nous continuons toujours l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi رحمه الله تعالى، et nous sommes arrivés au 20e hadith. فنبدا بقراءه الحديث. فعن ابي مسعود عقبه بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. دبخ ابي مسعود عقبة ابن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه، le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: fais partie de ce que les gens ont retenu des paroles des premiers temps de la prophétie, si tu n'éprouves aucune pudeur, alors agis comme tu l'entends. Le hadith est rapporté par al-Bukhari رحمه الله تعالى. الأمر الأول ترجمة راوي الحديث. Donc le premier point que nous allons voir, c'est la biographie ou des points remarquables concernant le rapporteur du hadith. وراوي الحديث هو عقبة بن عمرو وكنيته أبو مسعود وهو أنصاري من قبيلة الخزرج. Le rapporteur du hadith, c'est عقبة بن عمرو رضي الله عنه. Sa kunya est Abu Mas'ud, et il fait partie des Ansar de la tribu de Khazraj. Shahida al-Aqaba al-Thaniyata wa kana saghira. Et il a participé au deuxième pacte de l'Aqaba alors qu'il était jeune, et il est dit qu'il était le plus jeune de la délégation médinoise. Et il est aussi dit qu'il a participé à toutes les autres batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa summiya al-Badri wa lam yashhad Badra 'ala as-sahih. وإنما نسب إلى بدر لأنه سكنها. عقبة ابن عمر رضي الله عنه a été appelé al-Badri. Et pourtant, selon l'avis le plus juste, il n'a pas participé à la bataille de Badr. Et il a été appelé ainsi al-Badri car il a habité à un moment de sa vie la ville de Badr. ونزل الكوفة وتوفي بالمدينة سنة 40 أو بعدها. عقبة ابن عمر رضي الله عنه a vécu un moment de sa vie, Al-Kufa, et il est mort à Médine en l'année 40 ou peu de temps après. وَلَهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ إِثْنَانْ وَمِئَةَ حَدِيثٍ. Et il a été rapporté de lui dans les livres de hadith 102 hadith. Voilà pour ce qui est du rapporteur du hadith. الْأَمْرُ الثَّانِي مَنْزِلَةُ الْحَدِيثِ. Le deuxième point que nous allons voir, c'est l'importance du hadith. هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثٌ عَظِيمٌ يدور عليه مدار الإسلام وأصول الأخلاق. Ce hadith est un hadith important autour duquel gravite l'islam et autour duquel gravitent les fondements du bon comportement. الأمر الثالث ما يستفاد من الحديث. Le troisième point que nous allons voir, c'est quelles sont les leçons à retenir concernant ce hadith, et nous allons en citer 14 inshallah ta'ala. الفائدة الأولى أن الحياء من تراث الأنبياء المتقدمين. الذي تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن حتى وصل إلى أول هذه الأمة. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. La première leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que la pudeur fait partie de l'héritage des premiers des prophètes, que les gens se sont transmises les uns après les autres, de génération en génération à travers les siècles, jusqu'à parvenir à la première génération de cette communauté. Et ceci, on le tire de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, fait partie de ce que les gens ont retenu des paroles des premiers, des premières des prophéties, si tu n'éprouves aucune pudeur, alors agis comme tu l'entends. وما يؤثر عن النبوة الأولى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد شرعنا بصحته فهو صحيح مقبول. القسم الثاني ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل مردود. القسم الثالث ما لم يرد شرعنا بتأييده ولا بتنفيذه فهو يتوقف فيه ولا بأس بالتحدث عنه بشرط ألا نعلم أنه مخالف لشريعتنا. وهذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. Et ce qui nous a été rapporté des premiers prophètes peut être divisé en trois catégories. La première catégorie, c'est ce que notre législation témoigne de son authenticité. Alors, il est authentique et il est accepté. Deuxième catégorie de ce qui nous a été rapporté des premiers des prophètes et des législations qui nous ont précédés, c'est que notre législation témoigne de sa nullité. Alors, il est nul et rejeté et non valable. Troisième catégorie, c'est ce qui est ni confirmé ni démenti dans notre religion. Alors, notre devoir, c'est de s'abstenir. C'est-à-dire, ni on dément l'information et ni on la confirme. Et il n'y a aucun mal à citer les informations des gens du livre tant qu'il n'y a aucune contradiction à notre législation, et ceci conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Parlez à propos des fils d'Israël et il n'y a aucun mal en cela ». C'est-à-dire à partir du moment où il n'y a aucune contradiction avec notre législation. Al-fa'idatu thaniya an al-haya'a min al-akhlaq al-karimati الذي اتفق عليه الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم، وأن الحياء اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة، وأنه أقرته العقول السليمة والفطر المستقيمة. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Deuxième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que la pudeur fait partie des nobles caractères que tous les prophètes, du premier au dernier, ont approuvés. Et la pudeur fait aussi partie des nobles caractères répandus parmi les gens jusqu'à arriver à notre première communauté, au premier des musulmans. Et la pudeur fait aussi partie des nobles caractères acceptés par les raisons et par les natures saines. Et ceci, on le retrouve dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit fait partie de ce que les gens ont retenu des paroles des premières des prophéties, si tu n'éprouves aucune pudeur, alors agis comme tu veux. Al-fa'idatu thalitha ma ma'na al-haya. Troisième leçon que l'on peut retenir de ce hadith et que l'on va dégager de ce hadith, quel est le sens de la pudeur, al-haya? Al-haya ou lughatan huwa taghyirun wa inkisarun wa inqibadun يعتري النفس الإنسانية من خوف ما يعاب به. Du point de vue linguistique, la pudeur désigne le changement, la rupture, la rétractation qui s'empare de l'âme humaine par peur face à une chose blâmable. Et de là, on va comprendre le sens de la pudeur du point de vue religieux. والحياء شرعا هو خلق سني رفيع يبعث على ترك الأمور القبيحة فيحول بين الإنسان وارتكاب المعاصي ويمنعه من التقصير في حق ذي الحق. وهذا أخذناه من قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Donc du point de vue religieux, la pudeur, al-haya, désigne un comportement éminent qui pousse la personne à délaisser les choses répugnantes et qui s'interpose entre l'homme et la désobéissance et qui l'empêche d'enfreindre le droit d'autrui. Voilà comment les hommes de science ont défini la pudeur. Et ceci, on le tire directement de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Si tu n'as aucune pudeur, alors fais ce que tu veux. » الفائدة الرابعة أن الحياء من خصائص الإنسانية حباه الله تعالى به ليرتضع عن ارتكاب كل ما يشتهي فلا يكون كالبهيمة. وهذه الخاصية قررها جميع الأنبياء فتناقلتها الرسالات جميعا من النبوة الأولى إلى النبوة الخاتمة. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. La quatrième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que la pudeur est une spécificité, est une caractéristique humaine, qu'Allah Azza wa Jal a gratifié l'homme afin qu'il s'abstienne de tout ce que l'homme désire, et ainsi il se différencie des animaux. Et cette spécificité a été approuvée par l'ensemble des prophètes et des envoyés d'Allah Azza wa Jal. Et ce comportement a été transmis par toutes les révélations de la première prophétie à la dernière. Et ceci, on le tire de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit: parmi les choses que les gens ont retenues des premières prophéties, si tu n'as aucune pudeur, alors agis comme tu veux. Al-fa'idatul khamisah, anna al-haya'a thalathatu anwa'a. الحياء من الله الحياء من الناس وحياء المرء من نفسه. La cinquième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que la pudeur est de trois formes. La pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, la pudeur vis-à-vis des gens et la pudeur vis-à-vis de soi-même. Qu'est-ce que cela veut dire? وأما الحياء من الله فطريق إلى إقامة كل طاعة واجتناب كل معصية، لأنه إذا خاف العبد ذم ربه سبحانه وتعالى لم يرفض له طاعة ولم يقرب معصية، لأن ذم الله سبحانه وتعالى فوق كل ذم ومدحه فوق كل مدح، والممدوح من مدحه الله عز وجل، والمذموم من ذمه الله عز وجل، فالله أحق أن يستحيى منه جل جلاله. وجاء في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. Pour ce qui est de la pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, c'est la voie permettant d'accomplir toute obéissance et de s'éloigner de tout interdit. Car si le serviteur craint le reproche d'Allah Azza wa Jal, il ne regrettera aucune obéissance et ne s'approchera d'aucun interdit. Car le blâme d'Allah Azza wa Jal, le reproche d'Allah est au-dessus de tout blâme. Et les éloges d'Allah Azza wa Jal sont supérieurs à tout éloge. Et le blâmé est celui qui est blâmé par Allah, et le loué est celui qui est loué par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal est plus en droit qu'on éprouve de la pudeur vis-à-vis de lui, plus que quiconque. Il a été rapporté dans Sunan Tirmidhi et dans le Musnad de l'imam Ahmad, d'après Abdullah ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: éprouvez de la pudeur vis-à-vis d'Allah comme il se doit. Celui qui éprouve de la pudeur vis-à-vis d'Allah comme il se doit, qu'il préserve sa tête et ce qu'elle contient, qu'il préserve son ventre et ce qu'il renferme, et qu'il se souvienne de la mort et de l'épreuve, et celui qui désire l'au-delà délaisse la parure de ce bas monde, Et celui qui fait cela aura éprouvé de la pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal comme il se doit. وأما الحياء من الناس فيدخل فيه استحياء الناس بعضهم من بعض كحياء الولد من والديه والمرأة من زوجها والجاهل من العالم والصغير من الكبير. Pour ce qui est de la pudeur vis-à-vis des gens, elle inclut la pudeur des gens les uns vis-à-vis des autres, comme la pudeur de l'enfant envers ses parents, ou la pudeur de la femme envers son mari, ou la pudeur de l'ignorant envers le savant, et la pudeur du petit envers le grand. وَأَمَّا حَيَاءُ الْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ فَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الْحَيَاءِ تَحُسُّ بِهِ النُّفُوسُ الْعَزِيزَةُ الْرَّفِيعَةُ الشَّرِيفَةُ فلا تقنع بالنقص والدون والهون فيجد المرء نفسه مستحيا من نفسه لكأن له نفسين تستحي إحداهما من الأخرى. Pour ce qui est de la pudeur vis-à-vis de soi-même, c'est une forme de pudeur que connaissent les âmes nobles et pures. Et cette forme de pudeur, chez ces personnes-là, n'accepte ni le manque, ni l'abaissement, ni l'humiliation. Et l'âme éprouve de la pudeur vis-à-vis de lui-même, comme s'il possédait deux âmes dont l'une éprouve de la pudeur vis-à-vis de l'autre. الفائدة السادسة أن الحياء نوعان الحياء الفطري والحياء المكتسب. La sixième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que la pudeur est de deux sortes, une pudeur innée et une pudeur acquise. Qu'est-ce que cela veut dire ? الحياء الفطري هو ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب وهذا الحياء يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله عز وجل العبد ويرفعه بها وهو من خصال الإيمان. Pour ce qui est de la pudeur innée, c'est celle qui fait partie de la nature d'une personne et qui n'est pas une qualité acquise. La personne est ainsi créée sur la pudeur. Et cette pudeur empêche la personne de commettre des désobéissances, l'empêche des comportements méprisables, et c'est celle qui le pousse à acquérir les nobles caractères. Et cette pudeur s'inscrit au nombre des plus nobles caractères qu'Allah Azza wa Jal accorde à une personne et avec laquelle Allah Azza wa Jal élève cette personne. Et cette pudeur, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle fait partie des caractéristiques de la foi, comme nous le verrons plus tard. والحياء المكتسب هو ما كان مكتسبا من معرفة الله عز وجل ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور وهو أعلى خصال الإيمان. Pour ce qui est de la pudeur acquise, c'est celle qui est le fruit de la connaissance d'Allah عز وجل, de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, de sa proximité de ses serviteurs, et de sa parfaite connaissance, et de sa connaissance du moindre regard, et de ce qui est caché dans les poitrines. Ceci comme il convient à Allah Azza wa Jal. Et cette pudeur est le plus haut degré de la foi. مَا هِيَ الْأُمُورُ الَّتِي تُعِينُ عَلَى الْحَيَاءِ. La question que l'on peut se poser, quelles sont les choses qui aident à acquérir la pudeur ? تَتَوَلَّدُ الْحَيَاءُ مِنْ أُمُورٍ مِنْهَا مراقبة الله عز وجل فمتى علم العبد أن الله ناظر إليه قارب منه أورثه هذا العلم حياء من الله جل وعلا ثانيا شكر النعمة يتولد الحياء من الله عز وجل من التقلب في نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى وفي مطالعة نعم الله تعالى ورؤية التقصير في شكرها فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصية الله جل وعلا. Donc comment la personne peut-elle acquérir la pudeur qui est demandée religieusement? Parmi les choses qui aident à acquérir la pudeur, premièrement il y a muraqabatullah, c'est-à-dire la surveillance continue d'Allah Azza wa Jal. Parce que si le serviteur sait qu'Allah l'observe et qu'Allah est proche de lui comme il convient à Allah Azza wa Jal, cette science amènera ce serviteur à être pudique vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, en étant reconnaissant envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. La pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal se développe lorsque l'on jouit des bienfaits d'Allah Azza wa Jal innombrables. Et lorsqu'on médite les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, et lorsqu'on admet sa négligence face à la reconnaissance des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, tout ceci nous pousse à avoir de la pudeur envers Allah Azza wa Jal. Et ainsi, lorsque la personne se rappelle des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, la personne douée de raison sera gênée d'utiliser ses bienfaits dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Voilà deux moyens qui permettent à la personne d'acquérir la pudeur. Al-fa'idatu sabi'ah. قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت قد أورد العلماء تفسيرات كثيرة في معناها. La septième leçon concerne la parole du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit « Si tu n'as aucune pudeur, alors agis comme tu veux ». Les hommes de science, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont rapporté plusieurs explications concernant cette phrase du prophète صلى الله عليه وسلم et nous allons en citer trois. أولاً هذه الجملة هو أمر بمعنى التهديد فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه وهذا كثير في كتاب الله كقوله تعالى للكفار اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. Le premier sens concernant la phrase du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit si tu n'as aucune pudeur alors agis comme tu veux. Il s'agit ici d'un ordre qui véhicule un avertissement et une mise en garde. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait « Si tu n'as aucune pudeur, fais ce que tu veux, mais sache qu'Allah azza wa jal te rétribuera alors en conséquence. » Et on retrouve ce genre d'ordre qui implique une menace dans le livre d'Allah azza wa jal dans beaucoup de versets, comme lorsqu'Allah azza wa jal s'adresse aux mécréants en leur disant « Faites ce que vous voulez. Pas dans le sens, faites ce que vous voulez. Si vous voulez désobéir à Allah, faites-le. Non. Faites ce que vous voulez. Allah voit ce que vous faites et il vous rétribuera pour ce que vous avez fait. Al-ma'na thani huwa amrun bima'na al-khabar. Ay anna man lam yastahyi sana'a ma sha'a. Fa inna al-mani'a min fi'li al-qaba'ih huwa al-haya'. Fa man lam yakun lahu haya'a in ghamasa fi kulli fahsha'in wa munkar. Le deuxième sens de la phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux », ici il s'agit d'un ordre qui nous donne une information. Quelle est cette information? C'est-à-dire celui qui n'éprouve aucune pudeur, alors celui-là fera ce qu'il veut. Car c'est la pudeur qui empêche la personne de faire des actes méprisables et une personne qui n'a pas de pudeur s'engouffrera dans la turpitude et dans le blâmable. Al-ma'na thalith لقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هو أمر بمعنى الإباحة أي انظر إلى ما تريد فعله فإن كان مما لا يستحي منه فافعله وإن كان مما يستحي منه فدعه واتركه. Le troisième sens de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit si tu n'as aucune pudeur alors fais ce que tu veux, il s'agit ici d'un ordre qui prend le sens d'autorisation. C'est-à-dire, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait « Observe chaque acte que tu veux faire, et si c'est une chose dont on n'a pas à avoir honte, alors accomplis-la. Et si c'est une chose dont on a à avoir honte, alors délaisse-la et éloigne-toi. » Al-fa'idatu thamina anna fil hadith al-hatha ala al-haya' wa tanwiha bifadlihi wa hadha fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam idha lam tastahyi fasna' ma shi't. Ay لما لم يجوز صنع جميع ما شئت لم يجوز ترك الحياة. La huitième leçon que l'on peut retenir dans ce hadith, c'est qu'il y a dans ce hadith un encouragement à la pudeur et une indication de son grand mérite. Et ceci dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Si tu n'éprouves aucune pudeur, alors agis comme tu veux ». C'est-à-dire, puisqu'il ne t'est pas permis de faire tout ce que tu veux, alors il ne t'est pas permis de délaisser la pudeur. Ceci est aussi un autre sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa fadailu al-haya' kathiratun wa hasbuka minha ma yati. Et les mérites de la pudeur sont nombreux et nous suffit comme mérite les hadiths que nous allons citer. Awalan anna Allah yuhibbu al-haya'. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna Allah hayyun sittir yuhibbu al-haya' was-sitr. Wa hadha fi sunan Abi Daud. Premièrement, Allah Azza wa Jal aime la pudeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah Azza wa Jal est décent et pudique, et il aime la pudeur et la décence. Le hadith est rapporté par Abu Daoud. Thaniyan, al-haya khuluqul islam. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul islami al-haya. وهذا في سنن ابن ماجه. Deuxièmement, la pudeur est le caractère de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque religion a un caractère et le caractère de l'islam est la pudeur. Que dire d'une personne qui n'a plus de pudeur? Qu'Allah nous en préserve. Thalithan, al-haya'u la ya'ti illa bi khayr. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khayr. Wal hadith fi sahih al-Bukhari wa sahih Muslim. Troisièmement, c'est que la pudeur n'amène que du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, la pudeur n'amène que du bien, et le hadith se trouve dans l'authentique de l'Bukhari et dans l'authentique de Muslim. Al-fa'idatu at-tasi'ah min hadha al-hadith, anna fi hadha al-hadith isharatan ila ahammiyyati al-haya' wa dawrihi fi hayati al-muslim wa atharihi fi hajb al-'abd min al-wuqu' fi ma yakhrimu al-muru'ah wa ma ya'ibu an-nasu 'alayhi. La neuvième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est qu'il y a dans ce hadith une indication sur l'importance de la pudeur, sur son rôle dans la vie du musulman, sur son impact dans le fait que la pudeur empêche la personne de faire ce qui porte atteinte à son honorabilité et au reproche des gens. C'est la pudeur qui nous permet de préserver notre honneur, notre honorabilité et qui nous met à l'écart du reproche des gens. قال ابن القيم رحمة الله عليه لولا الحياء لم يقر الضيف ولم يوفى الوعد ولم تؤدى الأمانة ولم تقض لأحد حاجة ولا تحرى الرجل الجميل فأثره والقبيح فتجنبه ولا ستر له عورة. Ibn al-Qayyim rapporte cette parole qui va dans le sens de la leçon que nous avons tirée de ce hadith. Il dit, si ce n'était pas la pudeur, l'invité ne serait pas bien reçu. La parole ne serait pas respectée. Le dépôt ne serait pas restitué, la personne dans le besoin ne serait pas aidée, et l'homme ne rechercherait pas le bon et le préférerait à autre chose, et ne rechercherait pas à éviter le mal et à s'en éloigner, et elle ne couvrirait pas sa nudité. Regardez, lorsque la pudeur est absente, ce qui en découle. Et on retrouve le sens de la parole de Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh dans une parole de Abu Sufyan. فهذا أبو سفيان قبل إسلامه عندما وقف أمام هرقل فسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت علي أي لكذبت على رسول الله وهذا في صحيح البخاري. Regardez Abu Sufyan رضي الله عنه avant qu'il n'embrasse l'islam, lorsqu'il s'est présenté devant Hirakal, Hirakal l'a interrogé à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Sufyan a répondu. Et Abu Sufyan a dit plus tard, si ce n'était pas par pudeur qu'il découvre que je mente, j'aurais menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça montre bien que la pudeur empêche la personne de porter atteinte à son honorabilité et éloigne la personne des reproches des gens. Al-fa'idatu al-ashira, anna fi al-hadith at-tahdhir min 'adam al-haya' wa dhidd al-haya' huwa al-wiqaha. وأن الحياء مانع من الأفعال القبيحة وأن فقده يوقع صاحبه في كل شر والعياذ بالله. La dixième leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est qu'il y a dans ce hadith une mise en garde dans l'absence de pudeur et une mise en garde contre le contraire de la pudeur qui s'appelle l'impudence, parce que la pudeur est un obstacle entre la personne et les actes blâmables, et perdre la pudeur, qu'Allah nous en préserve, amène la personne vers le mal et vers toutes ses portes. الفائدة الحادية عشر أن الحياء محمود ومطلوب إلا إذا منع من واجب أو أوقع في محرم فإنه يكون عندئذ مذموما وليس بحياء بل ولا ينبغي أن نسميه حياء بل هو عجز وخور ومهانة. La onzième leçon que l'on peut citer de ce hadith, c'est que la pudeur est un caractère louable et qui est requis chez l'homme, qui est demandé chez l'homme. Sauf si la pudeur conduit la personne à délaisser une obligation ou à faire un interdit. Parce que certaines personnes, par pudeur parfois, commettent un interdit ou délaissent une obligation. Et cette forme de pudeur n'est pas louable. cette forme de pudeur est blâmable. Et les hommes de science disent, ce n'est même pas de la pudeur. Et il ne convient pas de citer cette forme de pudeur comme étant de la pudeur. Mais c'est plutôt de l'impuissance, une faiblesse et une humiliation.
وقد يقول القائل هناك تعارض بين النصوص فلا تعارض بين أمور الشريعة لأن الذي حث على الحياء هو الذي أمر بترك القبيح ومنع من التقصير في حق ذي الحق والحياء الحقيقي خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير من حق ذي كل حق.
Et ici, il n'y a aucune contradiction dans les textes prophétiques. Il n'y a aucune contradiction dans les ordres religieux. Parce que celui qui nous ordonne la pudeur, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, est celui qui nous ordonne à délaisser les choses répugnantes et qui nous empêche d'enfreindre les droits d'autrui. Donc la pudeur, ce n'est pas de délaisser une obligation ou de faire un interdit par pudeur dans une situation ou par rapport à certaines personnes. Ceci, c'est de la fausse pudeur. La véritable pudeur, comme on l'avait définie au début du cours, c'est un caractère qui nous pousse à délaisser les choses répugnantes et à nous empêcher d'enfreindre le droit d'autrui. Ceci est la vraie pudeur.
ومن الأمور التي لا تعد من الحياء أولا عدم قبول الحق والجهل به.
Et il y a des choses qui ne font pas partie de la pudeur et que commun des gens considèrent comme de la pudeur, alors que religieusement ce n'est pas de la pudeur. Premièrement, il y a le fait de ne pas dire la vérité ou de ne pas dire la vérité à haute voix et proclamer cette vérité.
قال الله تعالى والله لا يستحي من الحق. وقال ابن حجر رحمة الله عليه ولا يقال رب حياء يمنع من قول الحق أو فعل الخير لأن ذلك ليس شرعيا.
الله عز وجل dit de lui-même سبحانه وتعالى et Allah ne se gêne pas de montrer la vérité.
Et Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah alayhi disait, il ne faut pas dire que parfois la pudeur empêche de dire la vérité ou de faire le bien, car cela n'est pas conforme à la religion.
Une pudeur qui nous empêche de dire la vérité, qui nous oblige à faire des interdits ou qui nous entraîne à délaisser une obligation, ceci n'est pas de la pudeur. Ceci est de la faiblesse et de l'humiliation qu'Allah nous en préserve.
ثانيا من الأمور التي لا تعد من الحياء الحياء في طلب العلم. تقول عائشة رضي الله عنها نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وقال الإمام مجاهد رحمة الله عليه لا يتعلم العلم مستحي ومستكبر.
La deuxième chose qui ne fait pas partie de la pudeur et que beaucoup de gens par ignorance considèrent comme de la pudeur, c'est le fait d'apprendre sa religion. C'est-à-dire que la pudeur ne doit pas nous empêcher d'apprendre notre religion et de poser les questions qui nous concernent dans notre vie, notre religion.
Aïcha radiallahu anha nous dit, quelle excellente femme que les femmes des Ansar, la pudeur ne les empêchait pas d'apprendre leur religion.
La femme venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui disait, ô prophète d'Allah, la femme voit ce que l'homme voit en rêve. Est-ce qu'elle doit faire le rousl? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, na'am idha ra'at al-ma. Oui, si elle voit l'eau.
Et Mujahid rahmatullahi alayhi disait, cet imam parmi les tabi'in disait, deux personnes n'apprendront jamais. Celui qui est timide et qui fait preuve de pudeur et celui qui est orgueilleux.
الفائدة الثانية عشر أن الإسلام يدعو إلى الفضائل وينهى عن الرذائل.
الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق وينهى عن مساوئ الأخلاق.
La deuxième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, ce que l'islam appelle au bon comportement, et quel bon comportement que la pudeur. Et l'islam interdit tous les mauvais comportements, et quel mauvais comportement que l'impudence. Et les musulmans sont plus en priorité d'avoir les bons comportements que toute autre communauté, et les gens de la sunna et de la jama'a sont plus en priorité d'avoir les bons comportements que les sectes égarées.
الفائدة الثالثة عشر أن هذا الحديث دليل على أن الحياء من عمل القلب وأنه من الإيمان وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
La troisième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que ce hadith est une preuve que la pudeur est un acte du cœur.
et que la pudeur fait partie de la foi, et que les actes font partie de la foi. Et ceci est la voie des gens de la sunna et de la jama'a, qu'ils définissent la foi comme une croyance des paroles et des actes, et cette croyance augmente avec l'obéissance, et elle diminue avec les péchés. Allah nous en préserve.
وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة.
Et beaucoup d'autres hadiths viennent prouver ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que la pudeur fait partie de la foi et que les actes font partie de la foi.
جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان.
Premier hadith, c'est le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La foi consiste en 70 ou 60 branches. Le plus haut niveau, c'est la parole de la ilaha illallah. Et le plus bas niveau, c'est d'enlever un obstacle du chemin des gens, et la pudeur est une branche de la foi. » Donc dans ce hadith, on retrouve bien que la foi est une croyance, puisque la pudeur est un acte du cœur. On retrouve bien que la foi est un acte, puisque une des branches de la foi, c'est d'enlever un obstacle du chemin des gens. Et on retrouve bien que la foi, c'est des paroles, puisque le plus haut niveau de la foi, c'est le fait de dire « La ilaha illallah ».
Al-Hadith al-Thani, عن ibn Umar رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه من الحياء. أي يلومه من كثرة الحياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. وهذا في صحيح البخاري.
Il a été rapporté dans l'authentique de Bukhari que Ibn Umar nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant un homme parmi les Ansar. Et cet homme faisait des reproches à son frère qui faisait preuve d'excès de pudeur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, laisse-le, laisse cet homme qui pour toi fait un excès de pudeur. Car la pudeur fait partie de la foi.
والحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار.
وهذا في سنن الترمذي. Troisièmement, le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit la pudeur fait partie de la foi et la foi mène au paradis et l'obscénité fait partie de la perversion ou de la dureté et la perversion ou la dureté mène en enfer. Et ceci est rapporté par Sunan al-Tirmidhi. Donc tous ces hadiths nous prouvent que la croyance, c'est des actes, des paroles et une croyance.
الفائدة الرابعة عشر أن هذا الحديث رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا استطاعة له ولا مشية لأنه مجبر على عمله. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم المشي للعبد وهذا رد على الجبرية وعلى ضلالهم.
La quatorzième et dernière leçon que l'on peut citer, c'est que ce hadith est une réplique, est une réfutation à un groupe égaré qui s'appelle Al-Jabriyyah. Et on retrouve les pensées et la croyance de ce groupe dans la parole de certains musulmans. Et Al-Jabriyyah, qu'est-ce qu'ils prétendent ? Ils prétendent entre autres que l'homme n'a ni volonté, ni capacité, ni libre arbitre. Et que l'homme est contraint à faire ses actes sans volonté, et sans libre arbitre, et sans libre choix. Et ceci est un égarement. Et entre autres, il y a une réplique à cela dans la parole du prophète lorsqu'il dit « Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. » Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé que l'homme a une volonté, et que l'homme a un pouvoir de choisir et de décider, puisqu'il dit « Fais ce que tu veux ». Donc voilà pour ce qui était du hadith d'aujourd'hui. On va le lire une dernière fois, inshallah ta'ala.
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
D'après أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit fait partie de ce que les gens ont retenu des paroles des premiers temps de la prophétie, si tu n'as aucune pudeur, alors agis comme tu l'entends. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari, rahmatullahi alayh, سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.